Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Lors du dernier épisode, j'étais accompagnée de Pénélope et Thomas qui nous ont parlé des associations étudiantes et surtout de l'importance du militantisme étudiant. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Paul et de Samuel qui vont nous parler de l'aménagement urbain. Comment ça va, les gars?
Écoutez, ben ça va très bien. Hein. Très excité de vous parler de ça aujourd'hui. Moi et mon acolyte Sam, on a travaillé très fort dessus. Écoutez, on est très excité de vous présenter ça aujourd'hui.
Je pense que Paul a vraiment dit l'excitation qu'on a avec nous en ce moment. On est extrêmement excité de vous parler d'un sujet qui nous passionne tous les deux. Puis ça me fait plaisir d'en parler à la priori aujourd'hui.
Merci vraiment d'être là, les gars. Là, j'apprécie beaucoup. Avant de commencer directement dans le sujet, pouvez-vous un peu vous présenter votre programme, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Là.
Parfait, ben écoutez, je vais commencer. Alors, comme Carole a dit, moi, mon nom, c'est Paul Lionel Boisca. Je suis un de ses collègues au comité exécutif du BIAPRI. Je suis vice-président des affaires externes du BIAPRI, donc je représente le BIAPRI à l'extérieur de l'association. Puis je suis à ma deuxième année au BIAPRI. Et dans le fond, c'est aujourd'hui, j'avais toujours envie de faire un podcast, de parler d'un sujet qui pouvait m'intéresser. Puis justement, je parlais avec Samuel, on avait fait une genèse du projet il y a quelques mois de ça. Puis ben justement, avec la semaine de lecture qui s'est engrangée, on a décidé de justement s'enligner là-dessus. Donc, puis tout ce qui est transport urbain, aménagement urbain, c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà.
Pour ma part, Samuel Laforce, je suis aussi étudiant au BIAPRI. À ma deuxième année, comme Paul, et en fait, là, ce qui m'intéresse avec l'aménagement urbain, en fait, c'est une passion qui est partie d'Internet, là, de YouTube, des forums. J'ai vraiment découvert qu'il y avait une façon d'organiser les villes, nos sociétés, qui était vraiment peut-être plus efficace que ce qu'on a en ce moment au Québec. Et ça m'a toujours un peu intéressé là, d'aller voir ce qu'il y avait ailleurs dans le monde. Donc, je suis un grand voyageur. J'ai adoré aller en Europe, dans des villes américaines aussi qui sont mieux organisées, je pense, que nos villes aussi au Québec. Donc, je pense que mon expérience de voyageurs et non de touristes pourrait être utile à ce podcast aujourd'hui.
Parfait. Ben, maintenant, je pense qu'on peut bien embarquer dans le sujet. Merci de vous être présenté. Donc, comme on l'a mentionné plus tôt, aujourd'hui, on parle de l'aménagement urbain. Quand on pense à aménagement urbain, on pense beaucoup au développement du territoire. On pense aussi à développement durable. C'est pas mal ça, les grandes orientations, mais est-ce qu'il y en a d'autres que, mettons, juste l'aménagement du territoire puis le développement durable qui concerne l'aménagement urbain?
Ben moi, je pense que, évidemment, c'est les grands axes, mais il faut aussi penser à tout ce qui est les sous-sujets comme l'embourgeoisement, donc qu'on pense souvent comme la gentrification, là, malheureusement, qui est un anglicisme, mais l'embourgeoisement, donc, qu'on va aborder aujourd'hui. Aussi, tout ce qui est question avec l'aspect criminologie que Paul va nous apporter là, idéalement dans les prochaines minutes. Là, vous allez voir, c'est très intéressant. Aussi, on peut parler de logement dans l'aménagement urbain, tout ce qui est logement abordable. On vous a même prévu une petite actualité là, en lien avec l'Université Laval. Puis évidemment, là, aménagement urbain, transport en commun, efficacité de la société et gain de bien-être. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va faire tous ces axes-là ensemble avec Paul.
Super. Bien, sur ce, on peut... je pense que, Paul, tu peux plus nous expliquer un peu c'est quoi, justement, les problématiques. Tu sais, on a parlé de gentrification, on a parlé de l'aspect criminologique aussi, mais tu peux-tu rentrer en détail c'est quoi les problématiques en lien avec l'aménagement urbain?
Oui, bien écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, évidemment, Samuel nous a un peu mis en exergue, dans le fond, je vais parler de la gentrification, qui est évidemment un anglicisme, qui malheureusement est utilisé aujourd'hui, mais lorsqu'on veut parler du terme francophone, on va plus parler de l'embourgeoisement. Puis je pense que dès qu'on parle de l'embourgeoisement, ça nous tique,
ça
nous donne une idée de c'est quoi. Et donc, on va faire une petite définition de la gentrification. Dans le fond, pour ce que c'est pas tout le monde qui est au même niveau là-dessus. Dans le fond, gentrification, évidemment, c'est un terme qui est anglophone. Et ça vient du mot gentry. Gentry qui, en anglais, signifie la petite noblesse. Donc, j'ai trouvé une définition qui est quand même assez concise. Donc, la gentrification est un processus essentiellement urbain par lequel la population d'un quartier ou d'une ville dans son ensemble se modifie au profit de classes sociales favorisées dont l'installation se fait au détriment des classes plus modestes. Donc là, on peut voir justement que c'est une transformation, plus qu'au niveau urbain, plus au niveau d'une population donnée. Donc une population qui va être issu d'une classe populaire, de classe plus défavorisée, on va dire. Et évidemment, c'est quelque chose qui peut se traduire de différentes manières. Par exemple, j'ai un exemple ici, et on a eu la ville de Seattle, qui a connu une très forte gentrification ces dernières années aux États-Unis. C'est d'ailleurs une des trois villes qui a été le plus gentrifiée ces dernières années aux États-Unis, avec Washington notamment, Washington DC. Puis évidemment, dépendamment des pays où on se trouve, plus particulièrement en Afrique du Nord, la gentrification peut prendre différentes formes. Notamment, on pense aux États-Unis, il y a eu la ségrégation raciale, mm-hmm. qui a nécessairement modifié justement la façon dont, admettons, vous avez plusieurs groupes, comme les Afro-Américains, qui étaient consignés dans des quartiers spécifiques. Et notamment dans la gentrification, il y a aussi une logique de redlining. Et le redlining, en fait, ça part du fait que dans les années 30 aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle, dans le fond, des banques qui donnaient des prêts financiers, dans le fond, à des quartiers spécifiques. Et ces quartiers-là étaient désignés soit en vert, soit en jaune, soit en rouge. Et les quartiers en rouge ne pouvaient pas avoir de prêts bancaires. Et souvent, les quartiers qui étaient désignés en rouge, qui n'avaient pas le droit à ces prêts bancaires-là, c'est des quartiers où les Afro-Américains vivaient, les Latinos, les Asiatiques. Et donc, évidemment, ça crée une discrimination. Et systémiquement, je veux dire, ces endroits-là vont avoir moins de financement et vont avoir du mal à se développer. Et ça crée justement des classes qui vont être défavorisées par rapport à d'autres.
Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que là, ça l'affecte principalement, mettons, comme les quartiers. Mm-hmm. Donc, j'imagine que ça, comme tu as dit, ça amène un problème au niveau du développement. Fait que j'imagine exactement. Que, mettons, on va parler plus tard là, du transport en commun, mais j'imagine que ça vient créer aussi des problèmes de développement de réseaux de transport, d'infrastructures, probablement.
Tu vois très juste, Caro, tout ce qui est services généralement dans les quartiers qui ne sont pas gentrifiés, là, les quartiers plus défavorisés. Ben, je pense que Paul va nous donner des exemples plus locaux, là, comme à Québec, mais on va parler des services qui sont moins accessibles, moins à la pointe. Évidemment, là, on ne parle pas juste du transport, là, on parle de l'accès de santé, les écoles qui vont être moins d'investissement. Niveau des services de police aussi, qui vont faire moins de patrouilles, contrairement aux quartiers qui sont plus favorisés dû à l'embourgeoisement.
On parle aussi, excuse-moi, on parle aussi de... Tu as donné dans tes exemples, là, Seattle, les pays plus africains. Est-ce qu'il y en a des exemples, mettons, plus concrets, proches de nous, genre Canada, peut-être même Québec, là,
exactement,
qu'on peut mettre le doigt dessus.
Exactement. Ben, écoutez, Caroline, je te remercie parce que c'est exactement là où je m'en venais, en fait. Je donne l'exemple de Seattle parce que, si on connaît les États-Unis, on connaît la ségrégation. Mais justement, aujourd'hui, j'avais des exemples très, très frappants pour Québec, justement. Puis dans le fond, pour justement donner plus d'informations, puis pour mettre plus en lumière, dans le fond, j'ai une carte des quartiers centraux de Québec et... En règle générale, les quartiers centraux de Québec qu'on définit, c'est Léré, le Vieux-Limoilou, Mézeray, Saint-Sauveur, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm, Vieux-Québec. Donc, en gros...
La basse-ville, puis la basse-ville. Comment on le définit?
Exactement. Donc, un peu Limoilou, la cité, puis je veux dire une partie du Vieux-Québec. Donc, c'est ce qu'on appelle les quartiers centraux, dans le fond.
Okay.
Donc, c'est le centre-ville de Québec. Et il y a eu plusieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la ville de Québec, il y a eu plusieurs vagues de gentrification. Mais là, sur lequel je vais me concentrer, c'est la dernière vague de gentrification qui était de 2006 à 2016.
Okay.
Et donc, comme j'ai dit, c'est ça. Les quartiers centraux de Québec sont évidemment Limoilou, la cité. Et ce sont des quartiers qui, historiquement, ont été quand même. Qui abritait quand même une grande partie de la classe populaire.
Les quartiers ouvriers, comme on a tendance à les appeler.
Exactement, exactement. Donc, c'est des quartiers qui... On ne va pas dire nécessairement des quartiers pauvres, je n'irai pas jusque-là, mais c'est des quartiers qui, évidemment, abritaient une très grosse partie de la population. Et puis, je veux dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, on estimait que le centre-ville de Québec, de la ville de Québec, qui, on s'entend que Québec est la capitale du Québec, était un des plus pauvres au Canada.
Okay. Oh, ouais.
Oui, il y avait une très grande pauvreté. Je veux dire, le Vieux-Québec qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui est la rue Saint-Jean, puis les maisons, le Petit Champlain, tout ça, je veux dire, c'était là où la majorité des gens habitaient. Puis c'était, on estimait qu'environ 49% des habitations dans le Vieux-Québec étaient insalubres, qui n'étaient pas...
oui, je suis vraiment surpris, on dirait.
Exactement, ben, je veux dire, c'était assez compliqué dans ces eaux-là. Puis c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a eu plusieurs... de gens qui donnaient des prêts aux gens pour aller s'installer à Beauport, Charlebourg, Vanier, Neuchâtel même. Je veux dire, ce sont les banlieues historiques de Québec. C'est là où, d'enfants, les gens se sont installés. Puis c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a eu une ascension, on va dire, économique des gens de Québec, puisque dès que les gens, justement, arrivaient à avoir un certain train de vie, ben, ils s'installaient en banlieue. Ce qui a fait que le centre-ville s'est vidé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui habitent à Québec n'habitent pas dans le centre-ville, mais habitent en périphérie, là, dans les... dans le fond, les quartiers éloignés.
Okay. Tu as mentionné 2006 à 2016. C'est quoi qui s'est passé précisément dans cette période-là? Je...
Exactement. Donc, en fait, de 2006 à 2016, dans le fond, aujourd'hui, on parle de gentrification. Et c'est justement la période qui a connu, dans le fond, une très grande gentrification des quartiers centraux. Donc, comme j'ai dit, on passe notamment à Saint-Roch, Saint-Sauveur, une partie du Vieux-Limoilou et de Maisonneuve. Moi, je vais parler un peu de mon expérience personnelle. Mes parents viennent tous les deux du Togo. Ils ont étudié en Allemagne. Et lorsqu'on est arrivé au Canada, on a commencé à habiter, dans le fond, à l'avenue Bardi et à l'avenue Delery, qui se trouvent tous les deux dans Maisonneuve. Et moi, quand j'arrive au Canada, pour moi, je veux dire, même quand je repense avant, Maisonneuve, c'était une zone où il y avait beaucoup d'immigrants, beaucoup de gens issus de la classe populaire, classe ouvrière, comme Sam a pu le dire. Puis pour moi, c'était pas... Comment dire, je dirais pas que c'était pauvre, parce que pour moi, j'ai pas envie de mettre un stigma là-dessus, mais je veux dire, c'était très populaire, puis c'était pas pour moi quelque chose de hip, comme on peut le voir aujourd'hui. Puis justement, lorsqu'on voit ces quartiers-là aujourd'hui, je veux dire, prenons par exemple Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur, il y a notamment l'édifice de Ubisoft Québec qui s'y trouve. Il y a aussi, par exemple... on peut penser que le député de Tanchereau, Étienne Grandmont, se trouve à Saint-Joseph, dans les Moiloux. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de condos, je veux dire. Je pense qu'il y a l'édifice nouveau, je veux dire, il y a plusieurs cafés qui s'y trouvent. Il y a une revitalisation du quartier qui se fait, nécessairement. Et on estime que dans le fond, j'ai des chiffres que j'ai vus dans un article qui a été publié en 2016. Dans le fond... On parlait de la gentrification, des quartiers centraux. Et en fait, le maire de Québec, à l'époque, Régis Labeaume, voulait, dans le fond, contrer cette gentrification grandissante en créant des logements sociaux.
Okay.
Parce que, ben, évidemment, lorsqu'on parle des quartiers centraux, puis justement, du fait que les gens s'installent plus en banlieue, ben, les propriétés, les prix ont diminué, ce qui fait que beaucoup de gens... Ben, comme il dit, ici, 2000 populaires s'installaient. Mais lorsqu'on voit justement qu'il y a de nombreux projets immobiliers comme des condos qui s'y font ou comme des géants technologiques qui s'y installent, ben, je veux dire nécessairement, les prix, dans le fond, ben, les prix fonciers vont augmenter et les gens qui sont installés dans ces quartiers-là ben, sont un peu poussés à l'extérieur parce que, ben, veux pas, les prix augmentent puis ils n'ont plus d'autres places où aller. Donc, le contrat qu'on a vu avant, dans le sens où les quartiers centraux qui étaient devenus des quartiers populaires, où les gens allaient en périphérie, ben là, on voit que, justement, c'est les quartiers centraux qui deviennent de plus en plus chers et que là, que les gens qui, justement, des classes populaires s'en vont vers les banlieues. Donc, il y a une espèce de retour, dans le fond, de la chandelle. Puis c'est un problème qui se fait, puisque, justement, je pense que peut-être ça me va en parler plus tard, mais dans un contexte d'hyperinflation où on voit les prix des loyers au Québec qui montent en flèche, ben je veux dire, beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux dire, dans n'importe quel arrondissement où ils vont, si c'est un problème, le loyer.
Je pense qu'il est intéressant aussi avec ce que Paul dit, c'est que Paul parle des entreprises qui investissent beaucoup dans les quartiers centraux de Québec. On parle justement on va citer le Vieux-Québec, la Basse-Ville plutôt. Je viens pas de Québec, donc pardonnez mes références géographiques. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que oui, il y a eu beaucoup d'investissements d'entreprises comme Ubisoft. On va citer, pour en citer une seule. On a tendance à penser que ça attire une main-d'œuvre qui est plus qu'un salarié à plus élevé, tu sais, des plus grands salaires, donc un plus grand retour de taxes, des taxes foncières aussi plus élevées avec la valeur des logements, la valeur des condos, comme Paul disait, qui est plus élevée que des simples locataires. On a tendance à penser que c'est un net bénéfice là, pour une ville d'aller chercher plus de taxes dans ces quartiers-là, qui sont embourgeoisés. Et on a tendance aussi à penser que la revitalisation des quartiers, c'est un net bénéfice, là, dans le sens qu'on a des plus beaux services, on a des plus beaux parcs, les rues sont plus propres. Mais au final, on perd un peu l'objectif du quartier qui est de loger les gens. Puis on voit vraiment une fuite, là, une exode citoyenne vers les banlieues. Donc les quartiers se vident et au final, est-ce que le risque n'est pas que les quartiers se vident de manière à ne pas se subvenir à eux-mêmes? Et simplement la nécessité là, d'un influx de touristes de l'extérieur des quartiers pour subvenir. Donc peut-être que les commerces, au final, vont pas subvenir à leurs propres besoins avec simplement les citoyens du quartier, là. Donc il y a quand même un retour de la balance à se dire, oui, les quartiers sont plus huppés, on accède à des plus belles habitations, les gens sont plus fortunés. Mais au final, est-ce que ces gens-là investissent dans leur quartier eux-mêmes? Est-ce qu'au final, le quartier va pas finir par se dépérir ou se reclure sur lui-même et on va perdre un peu l'objectif qui était de le revitaliser au final? Tu sais, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Puis au final, on perd vraiment l'intérêt de les travailleurs soient à proximité de leurs emplois en les déplaçant vers la région. Puis là, encore plus important avec l'enjeu du transport à Québec qui va être à discuter plus tard, là.
Dernière question avant de passer dans l'aspect criminologique un peu plus de l'aménagement urbain. De ce que je comprends, là, la gentrification, c'est principalement amené par des politiques publiques ou je suis complètement à côté de la plaque?
C'est une très bonne question. Dans le fond, comme j'ai dit, des articles que j'ai lus, ça dépend. Notamment, dans le fond, pour ce qui est des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, qui sont évidemment, comment dire, dans le Limoilou, c'est évidemment des politiques publiques qui ont commencé dans les années 90 avec l'ancien maire de Québec, Jean-Paul Lallier, et qui était vu comme une administration municipale quand même assez progressiste. Qui justement a notamment créé le jardin Saint-Roch et qui justement a fait plusieurs a financé des ateliers d'artistes puis justement encouragé l'aménagement urbain du jardin Saint-Roch. Puis justement ce qui est assez ironique dans le fond dans ça, c'est que l'administration de Jean-Paul Lallier, qui était vue comme une administration progressiste, a mené justement au début de la gentrification des quartiers centraux de Québec. Donc on ne sait pas nécessairement si c'était ça leur but, mais c'est une conséquence quand même assez directe de ça. Puis, on parle de Saint-Jean-Baptiste qui a connu une gentrification peut-être moins intense que des quartiers comme Saint-Roch ou Saint-Sauveur, mais a quand même connu une certaine gentrification. Mais ces quartiers-là, leur gentrification, ce n'est pas faite par les politiques publiques, mais par les citoyens directement.
Okay.
On appelle ça la gentrification marginale, dans le sens où il y a un afflux de gens éduqués, entre autres dans des diplômes universitaires, mais pas nécessairement des gens plus riches. Donc, on parle de mères monoparentales, des universitaires sans emploi, des membres de la communauté LGBTQ, tout ça. Donc, il y a un changement de la population, un afflux de la population, une nouvelle population éduquée, sans nécessairement que ce soit une population plus riche. Donc, c'est une très bonne question. La gentrification, si c'est par des politiques publiques ou pas, je dirais que ça dépend. Puis c'est pour ça que c'est important d'analyser cas par cas, quartier par quartier.
OK. Maintenant, c'est quoi le lien qu'on peut faire avec l'aménagement urbain puis de la criminalité, justement?
Écoutez, parfait. Donc, j'ai aussi plusieurs notes là-dessus. Et je vais commencer par expliquer un peu la théorie de la fenêtre brisée, et qui est une théorie qui est très utilisée en criminologie et qui je pense, qui va faire écho à plusieurs personnes. Et dans le fond, prenez une mise en situation. Donc, un immeuble qui comporte une vitre brisée dans une ville quelconque. Disons, une usine qui a une vitre brisée. Si personne ne se soucie de réparer la vitre, le message qui est implicitement envoyé, c'est que personne ne s'en soucie, personne ne s'estime responsable de réparer la vitre. Puis dans ce contexte, admettons, d'impunité et de déresponsabilisation, d'autres vies seront brisées. Et aussi, plus par rapport à la criminalité, si tu es un gang de rue et que tu vois justement qu'un immeuble a une vitre brisée, et toi d'autres immeubles qui ont d'autres vitres brisées, ça va te dire, OK, il n'y a pas de contrôle social formel qui est fait. Il n'y a pas de... La ville ne sont pas responsables, la police ne sont pas responsables, ça veut dire que je peux faire mes activités criminelles un peu comme je veux, sans qu'il y ait personne qui vienne me courir après. Et donc, justement, il y a un lien à faire entre les petits méfaits du quotidien et le sentiment d'insécurité des résidents, excusez-moi. Donc, ce qu'il va faire, c'est que justement, beaucoup de gens qui, admettons par exemple, on parle des quartiers centraux, et admettons que les quartiers centraux font plus face à la criminalité. Parce que souvent, une des théories qui revient souvent dans les théories criminologiques, c'est justement que le centre-ville des villes, c'est là où se concentre la criminalité. Et donc, des gens qui, on a dit, souvent sont issus des classes populaires, qui sont plus défavorisés, qui doivent vivre avec cette criminalité qui est impunie, lorsque ces gens vont s'enrichir et qui vont s'amener vers une ascension économique, ils vont se déplacer vers les banlieues. Et donc, le problème reste entier, c'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas partir vont rester là, mais les gens qui peuvent partir vont le faire. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on crée un cercle vicieux où il y aura toujours une très grande mobilité résidentielle. Donc c'est ça. Puis justement, ça influe directement sur l'aménagement urbain puisque techniquement, les riches peuvent s'installer où ils veulent et les pauvres s'installent où ils peuvent.
Tu parles de la théorie, là, justement. T'sais, moi, comment je perçois ça, une théorie, souvent, t'sais, ça peut être observable, comme ça peut aussi être plus comme une pensée. Votre opinion sur cette théorie-là, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est fondé, oui, c'est un phénomène réel ou c'est plus comme une théorie préventive dans le sens que comme si on voit ce phénomène-là puis on agit comme ça, cela pourrait arriver?
Je sais pas si tu voulais y aller ou je peux...
Non, vas-en premier, je vais y rebondir.
Ok, ben parfait. Ben, je pense que c'est une très bonne question. Puis justement, c'est important aussi de se rappeler que c'est une théorie parce qu'il y a d'autres théories qui peuvent totalement contredire celle-là. Mm-hmm. Mais c'est une théorie quand même qui est assez populaire au niveau criminologique. Puis je pense que sans nécessairement donner 100% raison à la théorie, je pense que c'est une théorie qui se fonde sur comme plusieurs faits. Parce que en fait, je veux dire, des villes qui sont plus, mettons, riches, mettons, on prend une ville comme Palo Alto, une ville qui abrite plusieurs PDG de grosses compagnies américaines. Je suis jamais allé dans cette ville, mais je pense que ce serait extrêmement rare de voir un immeuble qui comporte une vitre brisée un jour et voir que le jour d'après, la vitre n'a pas été réparée. Je pense que c'est plus une image, mais c'est plus une question de... Il faut qu'il y ait une impunité et une responsabilisation des citoyens aussi. Le contrôle social formel, c'est plus le contrôle social qui est fait par les institutions publiques. Le contrôle social informel, c'est ce qui est fait par les citoyens. Admettons, par exemple, dans ton quartier, dans ton quartier résidentiel, si tu vois, par exemple, qu'une poubelle a été renversée ou qu'il y a une auto qui s'est fait voler, tout ça, c'est le fait de se dire « Ok, je vais prendre sur moi et je vais... essayer d'arranger ça, ou je vais appeler quelqu'un pour qu'il y ait quelque chose qui doit être fait. Je pense quand même que cette théorie-là est sur de bonnes assises. Puis justement, surtout par rapport, comme je dis, par rapport à la vitre brisée, puis par rapport à l'impunité, je pense que... moi, je pense que c'est très vrai. Ça, après, Samuel va donner son avis.
Mais oui, mais totalement. Mais moi, j'adore l'image de la vitre brisée. Moi, j'aimerais ça introduire la théorie de la vitre réparée. Donc, dans une ville, justement, on devrait peut-être plus se concentrer sur la solution plutôt que le problème.
C'était ma prochaine question. On fait quoi pour remédier à ce problème-là?
Ben oui, mais c'est ça. C'est peut-être une question de sensibilisation citoyenne, une question de... peut-être juste prendre le temps d'expliquer aux gens qu'ils ne sont pas simplement des individus, mais qu'ils font partie d'une société, puis que c'est important pour son bien-être personnel de veiller au bien-être de sa communauté. Donc, peut-être d'investir dans des... Dans des démarches communautaires, dans des organismes, qui connaît ses voisins aujourd'hui à Québec, qui prend le temps de parler avec ses voisins. Moi, je pense que ça serait vraiment important de retourner vers l'aspect communautaire de nos quartiers, de manière à favoriser l'entraide de favoriser la théorie de la vitre réparée. Et quand on voit, parce que si c'est pas chez nous, souvent on se dit c'est pas notre problème, mais je pense que quand c'est dans notre quartier, quand c'est dans notre ville, c'est chez nous. Il y a une certaine fierté à avoir à vouloir le bien-être là, de notre ville, Caroline.
Ben, un exemple, là, je pense, je vous entends parler, là, puis ça vient me faire penser à quelque chose. Dans la ville de Québec, le théâtre Le Capitole, c'est un super bel endroit dans la ville.
Oui.
Puis là, c'est super beau, c'est le fun d'aller voir des spectacles.
C'est super beau, skatepark. Mais...
je sais pas si vous êtes au courant, mais là, une couple d'années, c'était pas beau de même. Là.
Ah ouais?
Non, justement, c'était un grand théâtre super huppé et tout. C'est sûr qu'il n'y avait pas nécessairement de criminalité qui s'est installée là, mais...
Puis autour, à quoi ça ressemble?
À un moment donné, les prix des billets, les spectacles, tout ça a fait en sorte que comme le monde n'allait plus au théâtre, payait plus. Fait que le théâtre a juste comme été abandonné. Puis c'était une place où il y avait beaucoup de sans-abri qui allaient vivre là.
La délinquance aussi.
Puis tout était cassé, tout était à l'abandon. Mmh. Puis c'est un investisseur dans le monde des artistes qui a justement racheté le Capitole pour le remettre sur pied. Puis ben là, aujourd'hui, ça fait qu'on peut en reprofiter et tout. Fait que je pense que c'est quand même un peu, sans nécessairement rentrer dans l'aspect plus criminologique, mais c'est un immeuble, un bel immeuble, la ville de Québec, qui est quand même un emblème, qui était complètement détruit, justement, qui avait une fenêtre brisée.
Une initiative citoyenne.
Une initiative citoyenne, c'est un investisseur privé, mais même à ça, qui a justement réparé la fenêtre, puis maintenant, c'est accessible à tous.
Oui, réparer la fenêtre du grand capital. Okay. C'est très bien imagé, j'adore l'image.
Juste pour reposer sur ça, je pense que la différence entre ça et la gentrification, justement, c'est la redistribution à la communauté. Je pense que, dans le fond, ce qui fait que souvent les projets de gentrification sont mal perçus, c'est que c'est des projets qui profitent souvent aux propriétaires privés et aux compagnies privées. Et il n'y a pas de souci des compagnies privées à justement se dire « OK, on va redistribuer dans la communauté et on va essayer d'élever la communauté dans laquelle on investit. » Puis je pense que justement l'exemple du Capitole, c'est un excellent modèle justement d'une revitalisation urbaine en ayant le souci d'inclure la communauté dans ça.
Super. Sur ça, on va aller faire une courte pause et on vous dit à bientôt. Revenez-nous dans pas long à priori. Vous êtes de retour à priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Paul et de Samuel.
Donc, salut.
Bonjour. Bonjour. Donc, avant la pause, les gars, vous nous avez parlé de l'aménagement urbain un peu, les problématiques, principalement la gentrification, et aussi du problème en lien avec la criminalité que l'aménagement urbain peut causer. On a parlé... la théorie de la fenêtre cassée et en même temps, on a fait un petit lien aussi avec la théorie de la désorganisation sociale. C'est ça. Maintenant, on va parler plus de l'aspect logement, transport en commun et bien-être. Donc, Samuel, je te laisse la parole.
Ben oui, c'est certain que quand on pense à Québec et on pense à transport, on pense aux grands titres qu'on voit dans les journaux, qu'on voit dans les téléjournaux. On pense évidemment au troisième lien, on pense évidemment au tramway, on pense aussi aux autobus là, qui sont toujours à l'heure et pris dans le trafic. Mais sérieusement, je pense que même pour un non-citoyen de Québec, là, je pense qu'à l'entièreté de la province, même ça doit faire les titres, peut-être même nationalement, là, le troisième lien, le tramway, ça fait débat, ça fait problème. C'est un enjeu de société qui est très ancré là, dans notre quotidien. Donc, je pense qu'on devrait en parler aujourd'hui. Donc, sensibiliser nos auditeurs qui sont peut-être pas familiers ou qui sont peut-être pas instruits par rapport au problème. Moi, je compte pas aujourd'hui là, convaincre personne de oui ou non construire un troisième pont, un premier tunnel ou, oui ou non mettre des rails dans les rues de Québec. Mais je pense que c'est important de comprendre où sont les enjeux, quels sont les arguments des deux côtés. Et de comprendre pourquoi le transport et la mobilité, c'est important dans une ville grande comme Québec. Et en vrai, dans toute ville, le transport est très important.
Avant que tu embarques dans le petit débat des projets en ce moment du troisième lien et du tramway, j'aimerais juste faire un rappel, peut-être un petit topo pour ceux qui nous écoutent. En ce moment, là, dans l'aménagement urbain, il y a quand même déjà des orientations concernant les déplacements. T'sais, on peut penser aux rues conviviales. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est des rues qui veulent stimuler le déplacement actif. Fait que, on peut penser au vélo, à la marche et tout. T'sais, c'est déjà des projets qui existent en ce moment dans la ville de Québec. Puis on peut aussi penser à... Il y a les rues vertes aussi, si je ne me trompe pas, là, qui veulent plus ajouter une dimension environnementale à nos routes. Puis, on pense aussi, ça, je pense, c'est quand même propre à nous en Amérique du Nord, les rues hivernales, ça, je sais pas, étiez-vous au courant de ça?
Non,
j'étais pas au courant, mais ça m'a l'air intéressant.
En faisant mes petites recherches, c'est que j'ai eues. Ouais, on a le principe des rues hivernales à Québec. Dans le fond, c'est dans l'aménagement urbain, quand vient le temps, mettons, de penser, mettons, à comment on aménage nos routes et tout, il y a des gens qui vont être en charge de prendre en considération les réalités hivernales des Québécois pour que le transport se fasse de manière plus efficace. J'étais quand même surprise quand j'ai vu ça. Fait que ça, c'est déjà des mesures qui sont mises en place par, justement, la Ville de Québec. Si c'est efficace, c'est un débat. Je pense qu'on peut avoir une autre fois.
Ben oui, c'est certain. Il faut prendre, prendre en considération l'aspect là, de... On est une ville quatre saisons. Là. On a des vrais hivers qui nous frappent fort. Et on a des étés aussi qui sont très importants. Donc, c'est à prendre en considération dans qu'est-ce qui est mobilité, transport.
Mais le point, je voulais en venir avec ça, c'est que, tu sais, justement, on a les rues conviviales, on a les rues vertes, on a les rues hivernales. Je pense que c'est des affaires qu'il faut prendre en considération avec les deux projets en ce moment qui sont mis de l'avant dans l'actualité. Tu sais, l'hiver, nous, c'est fou, là. Tu sais, faire une route qui t'en prend 15 minutes l'été, ça peut t'en prendre le double, même des fois, le triple, tout dépendant de tu viens d'où. Je pense que c'est vraiment des enjeux importants qu'il faut penser quand on aménage urbainement nos routes.
Ah oui, puis aussi une planification là, qui est tout autre là, quand on pense aux intempéries. Là. On parle, mettons, faut saler les rues pour éviter que les gens, les piétons ou les voitures dérapent et soit se cassent le coccyx, soit font des accidents. Évidemment, il y a tout cet aspect-là de planification, d'entretien qui est beaucoup plus courant et constant là, durant les périodes hivernales ici à Québec. Moi, je pense que la Ville de Québec, là, ils font des super beaux projets. On peut penser à des projets qui sont qui sont très, très, très d'actualité, comme la promenade Champlain. Oui, c'est très, très beau, c'est très, très beau. Il y a une plage et tout. Mais je mets un mail, là, c'est un super beau projet. C'est pas vraiment un projet de mobilité, de déplacement. C'est plus un projet de vocation, de villégiature touristique.
Ouais.
Tandis que, là, je vais dire le saint mot en urbanisme, qui est la ville d'Amsterdam et les Pays-Bas, qui sont à prendre en considération. Il faudrait prendre un peu en exemple cette société-là pour mettre les gens dans le bain. Et quand on va aux Pays-Bas, toutes les rues, c'est une promenade du Petit Champlain. Tu veux te rendre à ton épicerie, tu te promènes sur une promenade Champlain. Tu veux aller à l'école, tu te promènes sur une promenade Champlain. Dans le sens que tout est bien pensé dans une optique d'accommoder cyclistes, piétons et voitures. Et pour rebondir sur la saisonnalité de l'hiver au Québec, ça a été prouvé là, dans les sociétés nordiques en Europe qu'il est très possible de se déplacer en vélo et à pied, peu importe l'âge, je tiens à dire, et peu importe la condition physique des citoyens, dans une ville, là, de se promener même à pied, faire tous nos déplacements. Tout est une question de planification, d'aménagement et d'habitude. Et ce qui manque au Québec, on pense souvent... c'est loin, les distances sont grandes à Québec. Il y a des grandes villes partout dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique, et en Amérique du Sud. Là, on peut quand même faire la distinction parce que c'est quand même deux modes de vie très différents. Et pourtant, dans ces grandes villes-là, la majorité des citoyens ne dépendent pas de la voiture pour leur déplacement. Là, je ne dis pas que la voiture, c'est mal, que tout le monde devrait demain matin échanger sa voiture pour une paire de patins roulettes et un vélo et se déplacer simplement à pied. Et je dis juste que c'est à prendre en considération que la voiture n'est peut-être pas toujours la meilleure option. Et peut-être qu'en ce moment, nos infrastructures ne nous le rendent pas en évidence que la voiture, c'est pas la meilleure option. Donc, moi, je tenais à dire, c'est ça. Donc, juste mettre ça de l'avant pour commencer. Je pense que notre auditoire, ça pourrait l'intéresser. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en voiture en ce moment. combien de personnes dans la voiture en ce moment sont seules? Combien de personnes auraient pu marcher pour aller faire la commission qu'ils font? Combien de personnes auraient pu... repousser la course qu'ils font en ce moment pour y aller avec un ami, pour y aller avec un membre de la famille, pour y aller à plusieurs, de manière à optimiser le trajet et le déplacement. Parce que au-delà de l'enjeu écologique, une voiture de plus sur la route, ça a une conséquence qui est exponentielle au niveau du trafic, au niveau du temps, au niveau du stress. On n'y pense pas souvent, mais c'est stressant souvent de prendre la voiture. C'est beaucoup de décisions qu'on doit prendre, c'est beaucoup de considération par rapport à notre propre sécurité, tandis que quand on est dans un transport en commun, en tout cas, moi, je suis là, j'ai mon livre, j'ai mon podcast, je regarde le paysage, je peux parler avec les gens, je suis détendu, j'arrive à destination. C'est beaucoup de considération, l'automobile. Et donc, c'est comprenable qu'à Québec, ce soit autant un sujet qui fait débat. Et on peut peut-être maintenant parler de ces sujets-là qui font débat. Ouais, maintenant qu'on a dressé la table là, par rapport aux considérations, là, les sujets préambulatoires.
Je pense que ça fait débat parce que Québec, c'est vaste. Comme la ville. Oh,
c'est vrai,
vaste comme
territoire. C'est une grande ville.
Val-Bélair, ça peut paraître loin pour certains.
Il y a quelqu'un qui travaille à Val-Bélair et qui vit à Lévis. C'est certain que... Puis c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui font des grands déplacements comme ça.
Quand tu habites la cité universitaire puis le centre-ville, je pense que oui, les transports en commun peuvent être une option plus adéquate.
Oui.
Mais quand tu habites en banlieue, moi, ce que je trouve dommage, puis c'est justement, je trouve ça dommage parce que les transports en commun, je trouve que c'est un concept qui est superbe.
Oui.
C'est super. Puis tu vas à Montréal, là, le métro, c'est magique. Même l'autobus, ça va quand même bien. Moi, j'entends rarement le monde chialer sur l'autobus. Mais à Québec, c'est plate parce que quand tu viens d'une banlieue, souvent, même si tu veux pas prendre ta voiture, t'es contraint à la prendre. T'es contraint à prendre ta voiture pour aller prendre l'autobus.
Oui,
parce que si t'as pas d'autobus desservi dans ton coin, faut que tu prennes ton auto pour aller stationner ton auto dans un parc-autobus pour pouvoir prendre l'autobus. Paul, tu veux-tu rebondir là-dessus?
Oui, ben, écoutez, je pense que j'ai beaucoup d'espérance là-dessus. Hein. Moi aussi, je suis un gars de banlieue, j'habite à Beauport. Donc, se rendre à l'université, c'est quand même assez compliqué. Une heure de bus tous les jours, aller-retour.
Express ou pas express, une heure de bus?
Pas express.
Avec express, tu le sais-tu, ça prend combien de temps?
30 minutes, 32 minutes.
Pour ce qui se fait en 20 minutes de voiture, peut-être?
Exactement. Donc, et je pense que, justement, on a porté des très bons points par rapport à la saisonnalité, par rapport à l'accessibilité en banlieue. Je pense que justement, c'est quelque chose qui est très important. Encore plus important, selon moi, à Québec, parce que ben, la majorité des gens à Québec habitent dans les banlieues. On voit des chiffres comme peut-être 36% de la population pour le tramway de Québec. Je veux dire, c'est, quand on sait que la majorité des gens habitent en banlieue, c'est que beaucoup de gens ne sont pas concernés. Puis je pense que justement, c'est important aussi d'avoir une espèce d'accessibilité envers les banlieues, puis c'est extrêmement important pour moi. Mais je pense que, justement, c'est toujours bien aussi d'encourager ces projets-là. Parce que, tu sais, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais il y avait un tramway à l'époque à Québec, de 1918 à 1948. Puis évidemment, il a disparu avec l'avènement de l'automobile.
Ah oui?
Donc, oui, exactement. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'il marchait plus, c'est pas parce qu'il était inefficace, je veux dire, bon. On s'entend que c'était 1948, c'était il y a très longtemps, mais c'est pour laisser plus place justement à l'automobile que le tramway de Québec a disparu. Puis je pense que justement, Caro a mené des très beaux points, comme on a dit par rapport à nos hivers, par rapport au printemps et tout ça, que c'est extrêmement important de prendre ça en compte lorsqu'on fait lorsqu'on fait ces projets d'envergure-là. Parce que, je veux dire, si le tramway reste coincé à moins 40 avec 30 cm de neige, c'est sûr que c'est assez problématique. Puis on a parlé aussi du troisième lien et justement de l'importance que ça a pour notamment les gens qui vont sur la rive sud et les gens de Lévis. Hein. Mais je pense que le troisième lien, c'est quand même quelque chose qui paraît beau, qui paraît gros, qui paraît magique, qui paraît comme une solution, une solution qui peut régler tous les problèmes. Mais je pense que ça peut occasionner, oui, ça peut peut-être solutionner quelques problèmes, mais ça peut aussi en créer plusieurs. Puisque il n'y a pas nécessairement, selon moi, de solution au trafic routier, si ce n'est que des alternatives qui sont viables. Je veux dire,
dire quoi par ça?
Ben, je veux dire, admettons par exemple, pour la ville de Québec, on a le RTC, le système de bus.
Oui.
Un système de bus n'est efficace, selon moi, que s'il y a un nombre conséquent de voies réservées à l'autobus. Si l'autobus reste coincé dans le trafic avec les voitures, ça ne fait qu'augmenter le trafic. Et je veux dire, les gens vont se dire, pourquoi je prendrais l'autobus pour être pogné dans le trafic alors que je peux prendre la voiture? Et finalement, arriver, ça me prend autant de temps.
Mais c'est justement un questionnement là, qu'on entend là, quand même par rapport au tramway. En ce moment, ça change vraiment beaucoup, là, mais je sais que d'une manière qu'il imaginait, c'était des rails dans les rues, entre les voitures. Puis ça, tu sais, comme les gens venaient à se questionner, est-ce que, tu sais, ça va valoir la peine, t'sais, tu le mets dans le trafic, le train, là. Vous en pensez quoi, ça?
C'est tout à fait... Il y a une phrase qu'on dit souvent dans le monde de l'urbanisme que j'ai découvert sur les forums, puis sur YouTube, dans les vidéos que j'écoute, là. C'est sûr, ça a pas l'air très académique que de dire de même, mais il y a la théorie du « one more lane », donc une voie de plus. C'est comme, ah ben oui, on va rajouter une voie, là, puis ça va régler le problème. Rajouter une voie, puis souvent, c'est des images mimes, là, des photos et drôles sur Internet. Puis on voit des photos de Phoenix ou de Los Angeles, qui est un des meilleurs exemples, que là, on a une autoroute avec 10 voies par côté et les 10 voies sont engorgées. Parce qu'au final, au final, tout le monde s'en va dans les mêmes quartiers, tout le monde prend les mêmes bretelles, tout le monde... Donc, qu'on mette 10 voies, le trafic va juste être plus compact dans moins de kilomètres, mais au final, il va toujours avoir autant de voitures, il va toujours avoir autant de trafic, il va toujours être autant compact. Donc, de rajouter une voie, le one more lane, est vraiment à prendre en considération. Et c'est littéralement ce qu'on a avec le troisième lien de nos jours. C'est, oh oui, on va rajouter une voie de plus. Donc, on va rajouter une avenue de plus pour plus de voitures. Donc, au final, il va avoir autant de trafic si on le considère comme ça. C'est un troisième lien, faudrait le planifier dans une optique de développement durable de un, dans une optique de mobilité qui est alternative à l'automobile. Donc, peut-être un peu le penser comme à Montréal, donc avec le REM, donc un train qui circule, ou un train, train, je ne parle pas nécessairement de via rail, là. Un train,
non,
ça peut être un métro, ça peut être un tramway,
un
ça peut être
un
véhicule sur
rail.
Un
peu comme Toronto.
Oui, exactement. Mm-hmm. C'est comme un RER pour nos amis français, ou un on peut le penser comme ça, éventuellement, qui circule à proximité des voitures, donc de manière à rendre une alternative qui est autant rapide, voire plus, que l'automobile qui va être pris dans le trafic. Et il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas d'imprévu sur ce réseau-là, qu'il soit toujours autant fiable, qu'il soit toujours... Donc, il faut le séparer totalement du réseau autoroutier, comme le disait Paul. On mettra jamais assez d'accent là-dessus. Un autobus est autant efficace que le nombre de voies d'autobus réservées. C'est vraiment ça l'importance du sujet aujourd'hui, là.
OK. Là, on parle de transport en commun et tout, là. Tu sais, c'est ça, là. Je pense vraiment que... je pense. De ce que je comprends, c'est... La solution, comme pour que ce soit vraiment efficace, serait de enlever ça des routes, puis comme trouver une alternative que mettre un moyen de transport en commun de plus dans les routes.
Oui, tantôt on parlait, je vais revenir là-dessus. On parlait de... Le Québec est une grande ville et c'est hyper difficile de faire du déplacement autre qu'avec l'automobile, parce que les banlieues, parce qu'en ce moment, c'est comme ça que c'est construit, c'est comme ça que ça a été pensé depuis toujours. Il y a une vidéo sur YouTube qui est très intéressante là, de la chaîne Not Just Bikes, pas juste des vélos. Et je vais citer la vidéo, là, c'est « This tiny island has insane traffic », OK? Donc, cette petite île a beaucoup de trafic, là. Je vais faire la traduction, je me permets cet effort. et on parle de Nassau aux Bahamas. Et là, on présente, Bahamas, c'est une île, il y a du trafic aux Bahamas. Et pour ceux qui prendront la peine d'aller voir la vidéo, je voulais résumer, par contre. C'est une toute petite île, oui, bien sûr. Il y a autant de congestion qu'à Québec. Et pourtant, on ne parle pas d'une mégapole comme New York, comme Montréal, comme Québec. On parle pas d'une grande ville. On parle d'une toute petite ville dans les Caraïbes qui est gorgée de trafic autoroutier. Et ce que l'urbaniste qui est derrière la chaîne YouTube présente, c'est que c'est justement le fait de faire passer les voitures par les villes augmente la quantité de trafic. Parce que plus on ajoute d'intersections, plus on ajoute de... Le trafic, c'est comme des vagues. Hein? Donc, plus on arrête à une lumière, plus on arrête à un stop, plus on fait un effet de vague qui va se répercussionner jusqu'à l'arrêt complet des voitures vers la fin de la marée de voitures. C'est très, très, très aquatique comme référence. Maintenant qu'on passe aux Bahamas, ça me donne le goût d'aller au chaud. mais même une petite île comme ça, si on ne prend pas la peine d'investir... Pourtant, il y a des autobus aux Bahamas. Ils ont un système très privatisé, par contre, et très complexe là, d'autobus qui arrêtent sous la demande des passagers. Bon, c'est sûr qu'il y a eux, un effort à faire du côté de l'investissement dans leur réseau de transport en commun. Mais une petite île que tout pourrait se faire, en théorie, à distance de marche ou à distance de vélo ou même en distance de transport en commun facilement pour tous les citoyens, est prise avec des problèmes de congestion qui sont inimaginables quand on pense à une île. Donc, la solution que le YouTuber proposait, c'est justement de pas empêcher les citoyens de circuler en voiture, mais de contourner le trafic à l'extérieur des artères où on retrouve les services et les commerces. Donc, comme ça, il n'y a pas beaucoup d'arrêts. Il n'y aura pas d'entrave à la circulation. La circulation va se faire à pied très, très bien dans ces axes-là qui sont majeur en termes d'intérêt, où ce que les gens veulent s'arrêter, la notion d'intérêt est très importante, et les gens qui veulent circuler aux alentours de la ville pour se rendre soit en périphérie, soit à la contourner, soit aller chercher du stationnement, mais ils ne vont pas entraver à cette circulation-là qui au final, est la circulation de destination. C'est là que les gens veulent se rendre. Donc, la circulation de transit n'impactera pas la circulation de destination. Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, je comprends.
Mais de contourner la ville et d'éviter un engorgement au centre, évite à long terme l'engorgement en périphérie de la ville.
On peut-tu faire justement un lien avec ce que tu dis, puis le troisième lien, mm-hmm. dans le sens que la manière que les gens voient ça, c'est on ajoute une route de plus, mm-hmm. fait que ça réglera pas le problème.
Ah non, c'est pas une route de plus qui réglerait le problème, puis ça, c'est toutes les expériences mm-hmm. nous l'ont montré, peu importe dans le monde. Mm-hmm. C'est repenser nos routes, les mieux les subdiviser, mieux les planifier par rapport à où les citoyens vont. C'est quoi les déplacements que les gens font à Québec? C'est les questions qu'on doit se poser dans la région de Québec, là, la région de la capitale plutôt. Où les gens vont, où les gens travaillent, où les gens vivent, où est le besoin de transport? Est-ce que le besoin est vraiment de rajouter encore plus de congestion vers Sainte-Foy, si on rajoute un troisième lien collé sur les deux autres ponts? Est-ce que le troisième lien devrait être plus vers l'Île d'Orléans, où l'on va rajouter directement du trafic vers le centre-ville? Où est le vrai intérêt du problème? Moi, je pense que l'intérêt est de repenser nos routes, de mieux planifier le transport en commun.
Je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais c'est pas moi qui produis les études non plus, là, mais je pense aussi que comme dans les arguments qu'il y avait, c'était aussi, tu sais, mettons, quelqu'un qui part de Beauport, même l'Ange-Gardien,
oui, oui.
qui veut s'en aller l'autre bord des ponts, ça peut y prendre un temps atroce. Si je pense juste à l'autoroute de la capitale, le matin, qui est congestionné, oui. par-dessus congestionné, je pense que c'était plus un des arguments.
Ben oui, c'est certain.
Et aussi le fait que le pont de l'île d'Orléans, il est un petit peu vieux. ça rush un peu son ventre. Puis je pense que aussi un des arguments qui a été amené à la table, mais qu'on laisse quand même de côté, c'est le fait aussi que à un moment donné, le pont sera plus accessible non plus.
C'est certain.
Ça va prendre aussi une solution pour que les gens de l'île d'Orléans puissent sortir de l'île d'Orléans. Tu sais, mettons, en gardant ces deux arguments-là en tête, pensez-vous que, tu sais, le troisième lien, c'est quand même une bonne idée malgré tout, ou non, c'est vraiment pas la solution?
Écoute, je pense que tu as apporté des très bons points que justement par rapport à ça, mais... Tu sais, je veux quand même apporter un point qui est assez important pour moi.
Toi, tu viens plus de Beauport. C'est pour ça que je te pose la question. Je pense que t'es mis...
C'est ça, exactement. Tous les jours, là.
Exactement.
Tu voyages en transport en commun, tu viens de Beauport, t'es client.
Exactement. Beauport, c'est ma ville. Donc, je pense que c'est des très hauts points que Caro a apportés. Puis c'est des bonnes considérations qu'il faut aussi prendre en compte. Tu sais, je pense que les gens soient contre ou pour le tramway, il y a des bons arguments vraiment des deux côtés. Puis je pense que pour moi, les projets de transport, d'aménagement urbain, qui évidemment sont souvent faits par l'administration municipale. C'est des projets qu'il faut toujours se rappeler, ce n'est pas des projets qui doivent être bénéficiaires. C'est pas des projets qui doivent rapporter du profit, parce qu'un projet de transport en commun ne rapporte jamais de profit ou alors très peu. Donc je pense que justement, on parle que le tramway c'est un projet d'envergure, troisième lien c'est un projet d'envergure. Je pense que ça en manque à Québec. T'sais, Québec veut pas, c'est une très grosse ville, c'est près de 600 000 habitants.
Et si tu comptes les environnements de Lévis, est environ 800 000.
Ben exactement. Québec, c'est une très grosse ville. Évidemment, c'est pas une aussi grosse ville que Montréal, mais c'est quand même quelque chose qui est très gros. Puis je pense que justement, peut-être qu'au lieu de se dire, on choisit soit le troisième lien, soit le tramway, on pourrait peut-être essayer de faire les deux, peut-être essayer d'avoir un projet de rénovation pour le pont de Québec, celui de l'île d'Orléans. Évidemment, c'est des projets qui vont nécessiter énormément d'argent, mais je pense qu'à long terme, c'est des projets qui valent beaucoup. Regardez, par exemple, le métro de Montréal. Je pense que personne de Montréal aujourd'hui va chialer sur le métro. Alors que le métro, on sait tous que ça coûtait beaucoup d'argent, mais c'est un projet qu'aujourd'hui, tout le monde...
Encore aujourd'hui, c'est super efficace.
Exactement. Financièrement, Paul apporte un bon point financièrement. Sur le court terme, c'est sûr, on va le voir comme une dépense, mais il ne faut pas le voir comme une dépense, il faut le voir comme un investissement. Plus le transport va être utile dans la région de la capitale, plus les camions vont pouvoir se déplacer avec la marchandise, plus on va pouvoir investir dans les nouveaux projets qui, eux, vont rapporter de l'argent. Donc, en investissant sur notre réseau d'infrastructures routières, et de transport en commun, et on est l'homme tout, là, on va pouvoir ensuite pouvoir se concentrer sur des plus gros projets d'envergure qui, eux, ils vont être efficaces et eux vont rapporter de l'argent.
Oui, dans le fond, tu sais, c'est pas de oui ou non, c'est plus comme oui, repenser la manière. plus comme, tu sais, on a un problème, ça c'est sûr, le trafic c'est un problème.
Ah ben oui.
Veut pas, tu sais, traverser d'une rive à l'autre, c'est un problème aussi. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, c'est plus comme comment on le fait.
Oui.
Oh, ben merci beaucoup.
Puis ça me fait extrêmement plaisir, oui.
Je pense que ça conclut la question du transport en commun.
Tout à fait. Ben oui, puis rapidement, je pense qu'on a le temps de parler à un sujet qui me passionne énormément.
Oui.
Et qui a fait beaucoup, beaucoup de remous dans l'actualité. Malheureusement, il y a quelques mois, quelques semaines, on est un peu tard pour en parler, mais c'est toujours d'actualité, puis ça va toujours être d'actualité dans la communauté universitaire. Caroline, je parle bien sûr de l'habitation abordable.
Oui, c'est ça, je m'en allais. Ouais, mais
on va l'aborder rapidement, mais en vrai, ça mériterait un épisode à soi, en soi.
pour plus tard.
Mais c'est ça, pour mettre dans le bain les gens. Mais moi, je le vis vraiment beaucoup, tout ce qui est logement abordable. Évidemment, je viens pas de Québec. Je l'ai dit tantôt, pour ceux qui ont une très bonne mémoire, qui sont avec nous depuis le début de l'épisode, je viens de la région de Montréal, de la Rive-Nord. Et quand je suis arrivé à Québec, évidemment, il y a eu la fameuse question de la pénurie de logement qui s'est tout de suite imposée. Où je vais me loger? Est-ce que je vais être proche de l'université? Est-ce que je vais être plus loin pour me déplacer? Je savais pas à quel point les transports allaient être utiles. Est-ce que je pourrais venir en voiture? C'était vraiment pas facile pour moi. Donc, je me suis dit, bon, je vais venir proche de l'université. Je vais venir me loger dans Sainte-Foy. J'ai réalisé rapidement que Sainte-Foy était un quartier qui était beaucoup plus cher à vivre que les autres quartiers. On parle de quand même 25 à 30 % plus élevé que les quartiers plus en périphérie de Québec ou même les quartiers plus proches du Vieux-Québec. Sainte-Foy est comme son microcosme de loyer élevé. Et j'ai quand même fait ce choix-là pour une question de facilité. Et venant pas de la ville de Québec, je me suis dit que ce serait plus simple. J'ai fini par trouver un logement, un et demi, et j'ai réalisé rapidement qu'il manque juste une offre de logement profonde à Québec. Et là, dernièrement, on voit des projets comme l'Université Laval qui aujourd'hui, très gentiment, nous accueille dans leurs locaux pour réaliser ce podcast-là. Mais on voit une certaine déconnexion avec la réalité. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un sondage qui a été réalisé par une firme externe, mais au profit de l'Université Laval. Et on proposait, à titre informatif, à titre de question, des logements des 4,5 pour 1600, 1700 $ Je pense même que c'était 1800 au début du sondage, là, si je ne me trompe pas. Pour des étudiants. Donc, l'Université Laval disait, seriez-vous en mesure ou seriez-vous à l'aise à payer 1800 $ on va dire, de tête, pour un 4,5 situé sur le campus, sachant que vous ne paierez pas de transport vu que vous êtes sur le campus. Bon, c'est sûr qu'il y avait une certaine mise en situation. Et on parle de 900 $ par personne. Si on parle de deux personnes dans un 4,5, un étudiant qui étudie à temps plein, qui veut prioriser ses études, devrait travailler pratiquement à temps plein, en même temps d'étudier à temps plein, pour se permettre un tel loyer. C'est extrêmement cher, le 900 $ Même moi, j'ai un emploi, je considère comme 25 % de mon salaire, étant le prix que je suis prêt à payer pour un logement, là, on parlerait de 50 %, on parlerait vraiment que je, même plus que ça, on parlerait qu'il y aurait un impact profond sur mes études, étant donné que je me concentrerais plus sur survivre en payant mon loyer. Donc, moi, je pense que c'est une question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au logement abordable? Qu'est-ce qu'un logement abordable? Est-ce que l'Université Laval se gourre en proposant des prix si élevés, sachant qu'il y a des projets comme l'UTIL, qui est sur le chemin Sainte-Foy, où là, on propose aux étudiants un loyer moyen entre 500 et 600 $ pour se loger, tout service inclus, à proximité de l'Université Laval. Est-ce qu'on devrait plus viser ces prix-là, considérant aussi l'inflation, le coût de la vie, le coût des études? Je suis curieux de vous entendre parler là-dessus. Là.
Mais, ouais, je veux juste revenir un peu. Tu sais, tu parlais de Sainte-Foy, là, c'est un endroit où les loyers sont élevés. Je pense que ce qui est un peu plate à dire, mais que la communauté étudiante oublie, c'est que, tu sais, oui, Sainte-Foy, c'est des étudiants dans la cité universitaire.
Oui, dans la cité universitaire.
Juste à côté de la cité universitaire, t'as Sillery, t'as Saint-Louis.
Très beaux quartiers.
Qui sont tous des beaux quartiers de Sainte-Foy. Puis ça, c'est un peu plate à dire. Ben, c'est pas plate, là, non. Mais, tu sais, un fait par rapport à ces quartiers-là, c'est que la population qui habite là, c'est quand même des personnes âgées. Beaucoup. Tu sais, moi, je pense à mes grands-parents qui habitent dans ce coin-là. J'avais mon arrière-grand-mère qui habitait là. Moi, j'avais beaucoup de personnes, tu sais, de 60 ans et plus qui habitaient à Sainte-Foy. Je pense que veux pas, tu sais, ça fait que eux, c'est des personnes qui ont soit encore leur emploi de vie ou qui ont eu leur emploi de vie, qui sont très bien. Je pense que ça peut aussi impacter, genre, le prix des loyers. C'est sûr que, comme, je trouve ça plate parce que un étudiant étranger
aussi à
mais même tu sais je me mets dans la peau d'un étudiant étranger, même s'il vient de la France puis qu'il est quand même tu sais bien aisé dans le sens que comme tu sais il peut avoir de l'aide de ses parents ou peu importe, tu sais je me mets dans la peau, moi je vis pas en appartement, mais tu sais c'est sûr que comme c'est un problème, moi je pense que comme c'est dommage, tu sais t'as pas de choix, faut que tu travailles beaucoup, faut que tu payes ton loyer, c'est pas évident.
Non, mais c'est certain, je pense que je suis le seul à cette table qui a le problème de devoir trouver un logement et se loger. Mais pour de vrai, Moi, j'ai fait mes recherches, puis c'est sûr qu'il y a des projets comme l'Utile là, du gouvernement. Ben, c'est gouvernemental, c'est à but non lucratif plutôt, là, mais c'est subventionné.
Juste pour vous dire, l'Utile, oui, c'est une... si je me trompe pas, c'est une perspective... c'est quelque chose qui a été fait par l'UEC, l'Union, l'Union des étudiants du Québec.
Oui, mais là, on parle vraiment de l'objectif. Il faut pas oublier l'objectif. L'objectif, c'est que les étudiants aient une diplomation pour qu'ils puissent rejoindre les forces du marché du travail. Pour qu'il y ait diplomation, il faut qu'il y ait études. Pour qu'il y ait études, il faut qu'il y ait logement. Et pour qu'il y ait logement, il faut qu'il soit abordable, ce logement-là. Donc moi, je pense vraiment, c'est un plaidoyer. Je demande profondément à nos dirigeants, à nos décideurs, de penser à investir dans la jeunesse. Parce que quand la jeunesse va être rendue à travailler, vous allez vouloir qu'elle aille bien étudier dans des conditions adéquates. Donc moi, je nous encouragerais vraiment nos décideurs à bien planifier nos et que ce soit par rapport au logement, au transport ou simplement à l'aménagement urbain. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait ensemble, c'est un plaidoyer de penser au futur, penser aux citoyens qui sont dans les villes du Québec. On mérite, en tant qu'être humain, une certaine qualité de vie et de planifier sur le long terme pour augmenter cette qualité de vie-là. Je pense que c'est ça qu'on est là aujourd'hui.
Avant de conclure, là... T'sais, quand on parle d'aménagement urbain, on parle aussi souvent de comme efficacité, accessibilité. Il y a un concept qu'on entend moins, mais qui est quand même important dans l'aménagement urbain, puis c'est le 15-minute city,
mm-hmm.
qui est la ville en 15 minutes, là,
oui,
dans le fond.
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça avant de conclure?
Ben, je pense que c'est Samuel peut-être qui avait plus d'informations là-dessus, sinon je pourrais rebondir après.
Oui, ben c'est ça. Ben, le concept, c'est une ville que tout est accessible en 15 minutes. Mmh. Donc, de ton logement ou que d'une station de métro, tu peux te rendre à tout service, ou d'une station de métro ou d'un arrêt d'autobus, ou on se comprend. Là. Tu peux te rendre à une bibliothèque en 15 minutes, tu peux te rendre à une épicerie en 15 minutes, à pied, là, je veux dire. Et ça, à rythme très lent, en profitant du paysage, tout est accessible. Le but, ce serait de créer des petits... C'est comme une théorie utopiste là, d'aménagement urbain, la 15-minute city, qu'une ville est constituée de plein de cercles ou de formes qui, du centre jusqu'à son extrémité, tu peux te déplacer en 15 minutes.
Okay.
Donc, tout est accessible en moins de 15 minutes en tant que tel ou 30 minutes si tu pars d'une extrémité à l'autre. De manière à avoir accès à tout service, tout loisir, tout commerce et tout logement en moins de 15 minutes, de manière à ce que tout soit super efficace, donc on ne perde pas de temps dans le transport. Donc c'est un peu une théorie utopiste qui va à l'encontre du modèle centre-ville-banlieue. Et chose importante à savoir, là, intéressante à savoir, la 15-minute city a été pensée, on pense à Epcot, là, la ville de Disney. Là.
Oui, oui.
Elle est pensée comme ça, cette ville-là, que c'est plein de petites communautés non fermées, là, très, 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 très perméables, et des petites communautés où tout est super accessible rapidement de manière à optimiser le quotidien. Là.
Dernière question, là, avant de conclure. Tu dis que c'est une théorie utopiste.
Oui.
Québec, comme je l'ai dit tantôt, c'est vaste.
Mm-hmm.
Est-ce que vous pensez que ça serait quand même réalisable dans la ville de Québec?
Je pense qu'à différents niveaux, ça peut être réalisable. Aussi, il faut... juste pour revenir sur la 15-minute city, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être très... qui peut être fait, ce serait peut-être dans les quartiers centraux de Québec, mm-hmm. comme on a parlé. Moi, je pense à Beauport parce que c'est ma ville, mais... c'est ma ville, mais je veux
Represent.
Dire... moi, je trouve qu'on peut... Il y a des épiceries à 15 minutes, mais de voiture.
Mm-hmm.
Donc, si, par exemple, je mange 15 minutes de chez moi à un point donné, j'atterris peut-être au Subway, mais je veux dire, j'ai pas nécessairement de grands... Quand t'es en banlieue, t'as pas des services qui sont directement à côté de toi.
Mm-hmm.
Donc, je pense que, justement, c'est peut-être quelque chose qui... T'sais, la configuration de Québec, surtout la configuration centre-ville-banlieue, pourrait peut-être être un peu compliquée, mais peut-être que si, justement, on part justement, du centre de la ville et qu'on essaie de peut-être l'élargir le plus possible vers les banlieues, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait. Je pense que ça... Donc, au final, je pense que ça peut être fait, mais en tenant compte de la réalité de Québec.
Je pense que ça serait comme... Ben moi, dans mon truc, comment je l'imagine, ça serait plusieurs 15-minute city.
Oui, exactement. Mm-hmm. C'est ça le but. Là.
Comme chaque arrondissement serait des 15-minute city. Puis, on dirait que ça serait super. Est-ce que, mettons, comme tu pars d'avant lui, tu t'en vas à l'université, ça reste encore. ça peut être encore un problème de se déplacer. Là. Je pense surtout que, mettons, de Donnacona, ça ne va pas être facile de se déplacer le matin.
Oui, puis important à dire, dans la Futune City, ton logement et ton travail sont dans ce 15 minutes-là. Donc, t'as pas
c'est plus efficace.
Oui, exactement. Tu n'as pas un long commute, là, un long transport entre. Tu te réveilles le matin, en 15 minutes, tu es au travail. C'est quand même
15 minutes, c'est rien, honnêtement. Ça va vite. Là.
Minime, oui.
Ah.
Négligeable.
Négligeable.
Ben, merci beaucoup, Caro.
Merci vraiment, les gars, de vous être présentés aujourd'hui. Mm-hmm. Malheureusement, l'épisode sur déjà sa fin. On aurait pu en parler encore pendant un autre épisode.
Oui, très intéressant comme sujet. Ouais.
Merci beaucoup. Puis pour ceux qui nous écoutent, on se dit à bientôt.
Merci.
Merci à vous.